Conférence, atelier. Une rencontre avec Stéphane Nicolet, chef de chœur, compositeur, ancien ingénieur dans l'industrie des satellites. Une conférence sur la musique et les sphères dans le cadre des rencontres musicales en Haute-Provence.
Bonjour à tous, donc je m'appelle Stéphane Nicolet. Dans mon parcours, j'ai toujours fait études musicales et scientifiques en parallèle. Je voulais être astronaute quand j'étais petit, puis il y a eu l'accident de Challenger en 86, ça m'a démotivé totalement. Et puis ensuite, je voulais devenir astronome, alors mes parents m'ont offert un télescope quand j'étais ado, et puis j'ai été très déçu par les images que je voyais dans mon télescope, ça ne ressemblait pas du tout à ce qu'on voyait sur les belles photos dans les magazines. J'étais très déçu aussi. Alors je me suis dit, je vais devenir astrophysicien. Puis là, quand j'ai commencé à faire des études un peu sérieuses, j'ai eu un gros poil dans la main et je me suis dit, non, c'est trop compliqué. Alors je suis quand même devenu ingénieur et j'ai commencé à travailler dans l'industrie satellitaire, des satellites. Ça s'appelait aérospatial avant, puis c'est devenu Alcatel Space Industry, puis Thales Alenia Space. En parallèle, j'ai toujours fait de la musique aussi depuis que j'étais gamin. Donc en parallèle, j'ai fait des études musicales. Puis en même temps que je travaillais comme ingénieur, ma carrière musicale a commencé à se développer aussi. Il y a eu des moments un peu difficiles pour faire coïncider les deux. Et puis il y a 5 ans, j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière d'ingénieur pour être musicien à temps plein. Ce que je suis aujourd'hui, mes activités principales sont la direction de chœur et la composition. Ce parcours m'a permis de m'intéresser à certains sujets, dont la musique des sphères, dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors c'est quelque chose qui remonte très loin, à la Grèce antique. Et l'exposé, je vais beaucoup parler pendant la première moitié de l'exposé pour expliquer plein de choses qui vont peut-être vous paraître un peu obscures parfois. Je m'en excuse d'avance, mais je suis obligé d'en passer par là pour comprendre pourquoi on en est arrivé là. Et la deuxième partie sera beaucoup plus ludique, avec pas mal d'écoutes musicales. Je vais tout d'abord vous faire écouter une pièce du XIIe siècle. Vous avez la partition qui va s'afficher. Vous pourrez essayer de suivre la musique et les paroles. Et puis je vous demanderai si que vous me disiez de quoi ça parle. Voilà, c'est un extrait. La pièce est beaucoup plus longue, la partition est beaucoup plus longue que ça. C'est donc un chant authentique qui se trouve dans un manuscrit du XIIe siècle. Je pense que vous avez compris le sujet. Ça parle de quoi ? Les planètes. Tout à fait. Ça parle des planètes. Donc on est au XIIe siècle et on fait des chansons sur les planètes. Donc, ce que ça veut dire, alors l'enregistrement que vous avez entendu, derrière, vous avez des bruits bizarres, c'était des verres, en fait, qui tournaient. Donc, l'agencement, dans Planetarium, vous connaissez le mot planétarium, en fait, c'est l'agencement des planètes. L'agencement des planètes est similaire à l'harmonie des voix, concordia vocum. De la Terre au ciel, à Terra Cielo Divinus, de la Terre au ciel divin, l'ordre en montant, Scanditur, est ainsi. Alors, Tullius, c'est le nom de Cicéron. Il s'appelait Marcus Tullius Cicéron. Il les a ainsi classés dans l'ordre montant jusqu'à la plus éloignée. Et là, vous avez toutes les planètes qui sont énoncées. La première, c'est la Lune. Ensuite, Hermès, c'est Mercure. Vénus, Sol, le Soleil. Le petit signe devant, c'est Eth et le Soleil. Mars, Iovis, c'est Jupiter. Atque Saturnus, c'est-à-dire jusqu'à Saturne. Donc ici, vous avez l'ordre des planètes tel qu'on le concevait à l'époque médiévale. Et cet ordre, en fait, il date d'avant, il date de Cicéron. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Je fais d'abord un petit retour très loin en arrière pour vous expliquer quelques petites bricoles. Tout d'abord, depuis très très longtemps, on avait remarqué qu'il y avait des étoiles qui se déplaçaient dans le ciel. Ces étoiles, les Grecs les avaient appelées des planètes, qui étymologiquement, planétos, ça veut dire astre errant, quelque chose qui erre. Et les Sumériens les connaissaient déjà, les Babyloniens, et puis les Grecs ont pris l'héritage des Babyloniens. Les Babyloniens avaient attribué un dieu à chacun de ces astres errants. Donc les sept astres errants que l'on connaissait, c'est les cinq premières planètes, à savoir Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, et on avait inclus le Soleil et la Lune aussi, qui se déplaçaient dans le ciel. Et puis, les Grecs, ils ont plus ou moins repris des dieux dont la fonction était à peu près similaire. Mars, chez les Babyloniens, c'était le Nergal, le dieu du feu et de la mort, et chez les Grecs, c'est devenu Arès. Alors, dans la colonne nom grec, vous avez un premier nom, Stilbon, par exemple, sur la première ligne, et ensuite, le dieu associé. En fait, les Grecs nommaient les planètes Stilbon, Phosphoros, pour l'étoile Vénus, quand elle apparaissait le matin, Hesperos pour Vénus quand elle apparaissait le soir, Pyrois, Phaeton, Phainon, Sélénine, Ilion. Ça, c'était le nom des planètes. Et en fait, chaque planète était associée à un dieu. Donc en fait, Stilbon, c'était l'étoile d'Hermès. Pyrois, c'était l'étoile d'Arès. Et quand c'est passé ensuite chez les Romains ont oublié tous les premiers noms. Alors Stilbon, Phosphoros, Pyrois, en gros, ça veut dire le flamboyant, le rutilant, le brillant, ça fait un peu nom de sous-marin nucléaire, vous savez. Et puis quand c'est passé chez les Romains ont juste gardé l'étoile de Mercure, l'étoile de Vénus, l'étoile de Mars, donc toutes les planètes étaient désignées comme ça. Et c'est pour ça que vous avez l'étoile de Jupiter, tout à l'heure dans le champ vous avez Jovis, parce que Jovis en fait c'est le génitif de Jupiter, ça veut dire de Jupiter. Et puis bah, nous on a oublié étoile 2 et on a juste gardé en fait le nom du dieu directement pour le nom de la planète. Je vais vous lire un petit extrait de Cicéron. Donc là, on est au 1er siècle avant le Christ. Dans le songe de Scipion, il écrit ceci. Ne vois-tu pas le monde entier renfermé dans 9 cercles, ou plutôt dans 9 sphères qui se touchent? La première est la plus élevée, celle qui embrasse toutes les autres, et le ciel lui-même, donc le ciel avec la voûte étoilée. Plus bas roulent 7 globes. À la première de ces sphères est attachée l'étoile de Saturne. Au-dessous brille Jupiter. Puis l'on rencontre Mars, ensuite vers la moyenne région le Soleil. Il est suivi des deux sphères de Vénus et de Mercure qui semblent lui faire escorte. Enfin, l'orbe inférieur est celui de la Lune. Le neuvième globe est celui de la Terre, placé au centre du monde et le plus loin du ciel, elle demeure immobile. C'est de ce texte de Cicéron que provient l'ordre des planètes que vous avez entendu dans l'hymne précédent au XIIe siècle. Et c'est cet ordre des planètes qui va prévaloir. Cet ordre des planètes a été sujet à spéculation, hein. Chez les Grecs, ils n'étaient pas tous d'accord entre eux, mais en tout cas, c'est cet ordre établi par Cicéron qui ensuite a été transmis à l'Occident, au Moyen-Âge occidental ici. Qui a prévalu jusqu'à Copernic, Galilée, et puis les nouvelles découvertes. Et cet ordre a été établi selon les vitesses de révolution des astres, qu'on savait à peu près estimer à l'époque. Alors, il y a quand même une chose intéressante dans ce texte aussi, que je ne sais pas si vous avez entendu. Le neuvième globe est celui de la Terre. Et là, il parle bien de globe. Et il faut oublier le mythe de la Terre plate. Les Grecs savaient pertinemment que la Terre était sphérique. Et au Moyen-Âge aussi, tous les érudits savaient que la Terre était sphérique. Éventuellement, le paysan ne le savait pas forcément. Mais en tout cas, on a énormément d'écrits qui attestent que la Terre était sphérique. Et d'ailleurs, si vous allez sur Wikipédia, si ça vous intéresse, vous tapez mythe de la Terre plate et vous aurez l'explication de pourquoi aujourd'hui on croit qu'au Moyen-Âge, ils croyaient tous que la Terre était plate. C'était une espèce de cabale montée par les darwinistes et autres qui voulaient décrédibiliser l'Église pour pouvoir répandre la théorie de l'évolution de Darwin, entre autres. Il n'y a pas eu que ça, hein. Il y a eu d'autres cabales. C'était un peu les fake news de l'époque. Au XVIIIe siècle, il y a eu la fake news qui disait qu'au Moyen-Âge, ils étaient bêtes, ils croyaient que la Terre était plate, mais c'était une fake news. Au Moyen-Âge, ils savaient parfaitement que la Terre était sphérique. Et donc, pour expliquer le mouvement de ces planètes, les Grecs ont supposé que, en fait, ces étoiles étaient attachées sur des sphères, et que toutes ces sphères, elles étaient enchâssées les unes dans les autres. Donc ça, c'est un peu la perception qu'on avait dans l'Antiquité, qui a prévalu jusqu'à Copernic et Galilée, à savoir la Terre au centre, ensuite une première sphère sur laquelle était fixée la Lune, une deuxième sphère sur laquelle était fixée Mercure, etc. Et tout ça tournait l'un dans l'autre. Au VIe siècle, avant notre ère, il y a eu Pythagore et toute sa descendance, les pythagoriciens. Alors, on parle souvent de Pythagore, en fait, il faut plus généralement parler des pythagoriciens, parce que Pythagore, on n'a aucun écrit direct, on n'a que ses disciples qui nous ont rapporté des choses de lui, et c'était quelqu'un qui a eu une énorme influence, et parfois on lui a attribué des choses, il a fait de l'ombre aux disciples, on va dire. Ce sont les disciples qui ont fait les découvertes, mais ça a été attribué à lui. Donc on parlera plus généralement des pythagoriciens. Je vais vous lire un extrait d'Aristote qui se trouve dans son livre Métaphysique. Ceux qu'on désigne sous le nom de pythagoriciens se consacrèrent les premiers aux mathématiques et les firent progresser. Nourris dans cette discipline, ils estimèrent que les principes des mathématiques sont les principes de tous les êtres et que les nombres semblaient être les réalités primordiales de l'univers. Donc, pour les pythagoriciens, les nombres sont la clé de tout ce qui nous entoure. Et ceux qui ont... On attribue à Pythagore l'invention du mot cosmos, qui étymologiquement veut dire agencement, ordre. Et ce qu'a donné ici cosmétique, en fait, cosmétique, c'est l'art de se décorer, de mettre de l'ordre sur son visage. Et donc, c'est de ce concept que le cosmos, tout ce qui nous entoure, est ordonné d'un point de vue mathématique, qu'est né un concept qu'on appelle sous le nom d'harmonia mundi. L'harmonie du monde, en fait. Et ce concept-là, il a eu énormément de succès partout. Dans tout l'Occident, il y a eu une influence considérable sur tous les arts, l'architecture, la peinture, sur la politique, sur la morale. L'humanisme s'en est fortement inspiré. Ça a été quelque chose d'énorme. Et donc, pour eux, il fallait tout organiser selon ces nombres. Ils avaient une figure symbolique, les pythagoriciens, qui est celle-ci, qui s'appelle la tétractis. Donc le premier point, en fait, c'est Dieu, c'est l'unité. Ça désigne la dimension zéro, un point. Le deuxième niveau, c'est la dualité, donc l'ombre, la lumière, l'amour, la haine. Et quand vous prenez deux points, vous pouvez tracer une ligne entre les deux. C'est la première dimension. En dessous, vous avez l'équilibre. Le chiffre 3, pour les pythagoriciens, c'était l'équilibre par excellence, parce que c'est le point central qui permet d'équilibrer les dualités. Et avec trois points, vous pouvez tracer une surface. Trois points disposés, non alignés, ça permet de tracer une surface, c'est la deuxième dimension. Et ensuite, le chiffre 4, c'était le tout, ce qui englobe toute l'harmonie. Et avec quatre points, vous tracez le volume, vous avez la troisième dimension, le tétraèdre de base. L'ensemble, tous ces points-là, ça fait 10 points. Donc les chiffres 1, 2, 3, 4 et 10 étaient des chiffres sacrés pour les pythagoriciens. Et il y avait 4 niveaux d'enseignement dans l'école de Pythagore. On partait de la base et puis on montait comme ça les niveaux jusqu'à atteindre la connaissance ultime. Et ça, ça a marqué aussi les esprits. Et voici au Vatican une fresque de Raphaël qui s'appelle l'école d'Athènes. Et il y a un petit détail ici. C'est une hérésie, c'est Pythagore qui écrit sur un livre, malheureusement on n'a aucun écrit de Pythagore. Et devant lui vous avez un de ses disciples qui tient un tableau noir. Et sur ce tableau, voici ce qu'il y a sur ce tableau, on retrouve les alignements 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 en bas, le triangle, donc la tétractis avec le X du 10 qui symbolise la somme. Et puis au-dessus, Vous avez un diagramme un peu bizarre, avec, on lit les chiffres romains 6, 8, 9 et 12. Ces chiffres sont très importants, on va les découvrir tout à l'heure. Avec, en grec, en haut, il y a écrit « epogdon », c'est entre 8 et 9, c'est le rapport de 8 à 9. « Diatessaron », le rapport entre 6 et 8 et entre 9 et 12. « Diapinte », le rapport entre 6 et 9 et entre 8 et 12. Et « diapason », le dernier en bas, le rapport entre 6 et 12. « Diapason », c'est un mot que vous connaissez, ça. « Diapason ». Je l'expliquais tout à l'heure. Donc, les nombres sont la clé du cosmos. Et puis, il se trouve que Pythagore, enfin, les pythagoriciens ont découvert qu'il y avait des nombres dans la musique. Que la musique était harmonieuse quand elle était mathématique. Alors, avant de vous expliquer cette mathématique musicale, juste un petit truc sur la musique en Grèce. À la base, la musique grecque, elle est basée sur des tétracordes, c'est-à-dire quatre cordes. Et la lyre, à la base, initialement, avait quatre cordes. Et puis, aux alentours de moins 700, il y a eu un poète très célèbre en Grèce qui s'appelait Terpandre, qui a écrit ceci. Alors ça ne nous est pas rapporté directement de lui, mais en tout cas, c'est Strabon, quelqu'un qui a fait livre géographie au 1er siècle avant Jésus-Christ, qui a écrit ceci, qui aurait eu en main des écrits de Terpandre et qui a recopié ceci. « Pour te plaire, ô déesse, nous renoncerons désormais aux accents de notre lyre tétracorde et ne chanterons plus tes louanges quand nous accompagnons des sept cordes de la lyre nouvelle. » C'est-à-dire qu'au 7e siècle avant le Christ, la musique grecque a eu une évolution, la lyre en tout cas, elle est passée de 4 à 7 cordes. Et pourquoi 7? Justement pour plaire aux dieux, à cause du nombre de planètes qu'il y avait dans le ciel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a 7 notes dans la gamme en fait, on va voir ça juste après. Donc, voici deux exemples de lyre de l'Antiquité. Ces deux lyres ont 7 cordes, donc c'était une carapace de tortue avec des cordes tendues. La première photo, elle est vue de derrière avec la carapace. La deuxième photo, elle est vue de face. La carapace est recouverte d'une membrane pour pouvoir se faire caisse de résonance. Alors, les lyres n'avaient pas toutes 7 cordes. Elles allaient de 3 à 12. Les instruments étaient variables. Mais en tout cas, la lyre à 7 cordes était l'instrument le plus symbolique pour faire de la musique, pour célébrer les dieux. Et si vous regardez les représentations de vases, vous trouverez toutes sortes de cordes, bien entendu, parce que les peintures... les auteurs sont parfois, prennent des libertés, mais en tout cas, il y a quand même un bon panel de lyres à 7, voire 8 cordes qui sont retrouvées, parce qu'au temps des pythagoriciens, on a ajouté une 8e corde à la lyre. Alors, cette histoire de musique, comment les Grecs ont découvert des rapports mathématiques dans la musique? Alors, il y a diverses histoires qui circulent, qui nous ont été rapportées par les Grecs eux-mêmes, qu'on trouve dans des écrits qui nous sont parvenus jusqu'à nous, d'autres qui ont été transcrits par des auteurs latins, qui ont eu l'héritage de textes grecs. Et ce sont des mythes, parce que physiquement, on sait aujourd'hui que ce n'est pas possible. Mais le mythe dit qu'un jour, Pythagore se baladait, et puis il a entendu des forgerons taper sur des enclumes, et il a trouvé que le coup des marteaux faisait des sons agréables à l'oreille. Il s'est approché, puis il a pris le poids des marteaux, il les a pesés, puis il a trouvé qu'il y avait des rapports mathématiques, qu'un marteau pesait le double de l'autre, qu'un autre pesait les deux tiers, etc. Ça, c'est une légende, mais qui a été écrite en tout cas, qui a été rapportée. Mais on sait que physiquement, c'est pas possible. Et donc ça, c'est dans une gravure du 15e siècle qui représente les différentes façons dont Pythagore a étudié les rapports musicaux. Donc la première... en entendant ses coups de marteau, la deuxième en étudiant des vers à plus ou moins remplis d'eau, puis en tapant sur des cloches plus ou moins grosses, puis ensuite en étudiant des cordes tendues avec des poids différents, et puis des tuyaux avec des longueurs différentes. Alors sur toutes ces expériences, il y a que celle des tuyaux qui physiquement s'explique. Un tuyau de longueur double va faire effectivement une fréquence double. Par contre, au niveau des poids sur les cordes, ça marche pas. C'est pas un double, c'est un carré, c'est-à-dire que si vous avez un poids de 3 kg, pour faire une fréquence double, il faudrait un poids de 9 kg, physiquement. Mais toujours est-il que, peu importe la manière dont ils sont arrivés à cette constatation, à un moment donné, ils ont inventé un instrument qui s'appelait le canon, qui veut dire la règle, qui était un monocorde. Alors j'ai profité du confinement pour en fabriquer un, vous voyez, avec un vieux tiroir de commode. Et en fait, ils ont établi la chose suivante. Donc j'ai deux cordes qui sont à peu près accordées. Et si on coupe une des cordes en deux, en son milieu, vous avez un son qui est à l'octave. Et ils se sont dit, tiens, ce son est harmonieux. Les deux ensemble, c'est sympa. Si on le coupe aux deux tiers, ils ont trouvé un intervalle aussi harmonieux, qu'aujourd'hui on appelle une quinte. Et ils ont trouvé ça très sympa aussi. Et puis également ce rapport. Là, j'ai coupé la corde aux trois quarts. Et ils ont trouvé ça, que cet agencement était harmonieux. Donc en fait, si on prend une corde de longueur 12, qu'on la coupe en deux, elle fait une longueur 6, alors 12 mètres, 12 cm, hein, ce que vous voulez, à tension et à épaisseur égale, la même corde tendue de la même manière, vous la coupez en deux, vous avez un rapport double que les Grecs, qu'aujourd'hui on appelle octave, et que les Grecs ont appelé diapason. Si on la coupe aux trois quarts, donc vous avez un rapport de 9 à 12, les Grecs appelaient ça ce rapport épitrite, donc 4 tiers, c'est un rapport épitrite. Les Latins appelaient ça sestitiers. Et c'est ce qui a donné en fait l'intervalle diatessaron, qui veut dire pour 4 en grec, qu'on appelle aujourd'hui quarte. Le rapport de 8 à 12, 3,5, une proportion qu'on appelle hémiole en grec, sesquialter en latin, et l'intervalle musical, du coup, entre 8 et 12, c'est un intervalle de diapinte, qui veut dire pour 5, qu'on appelle aujourd'hui la quinte. Si on regarde ce diagramme, on peut en déduire d'autres choses. On peut en déduire qu'entre la quarte et la quinte, si vous prenez les extrémités de cordes, donc on a un rapport de 9 à 8, qu'ils ont appelé époque donne, et qui a donné un ton. L'écart, si vous prenez 9 huitièmes de la corde, vous avez un ton d'écart. Donc la fondamentale fait do, 9 huitièmes, vous avez un ré. Vous retrouvez tout ce qu'il y avait sur le tableau de Raphaël tout à l'heure. Diapason, diatessaron, diapinte et époque donne. Et puis il y a un constat aussi qui est, on constate qu'entre l'octave et la quarte, en fait il y a une quinte, c'est-à-dire que si on part d'une note, on monte à la quarte, et pour retrouver l'octave, il va falloir mettre une quinte en plus. Donc tout ça, ce sont des rapports mathématiques que les Grecs ont découverts. Et donc là, c'est le rappel du tableau de Raphaël. Et partant de là, ils ont établi des gammes musicales, un certain nombre de modes dont on a hérité, et ça a donné aujourd'hui notre gamme occidentale qu'on utilise, avec do, ré, mi, fa, sol, la, si, etc. Il y a un petit calcul savant éventuellement. Je vous explique, je vous cite Platon. Platon qui dit « Alors le démiurge, c'est le dieu créateur de toutes choses, remplit tous les intervalles de 1 plus 1 tiers à l'aide de l'intervalle de 1 plus 1 huitième, laissant dans chacun d'eux une fraction telle que l'intervalle restant fut défini par le rapport du nombre 256 au nombre 243. » Waouh. C'est clair. Juste pour vous montrer, donc 1 plus 1 tiers, ça fait 4 tiers en fait. 1 plus 1 huitième, ça fait 9 huitièmes. Et ce qui dit, donc ce que Platon dit, c'est qu'on a le démiurge, le dieu créateur, a comblé l'intervalle de 4 tiers, donc l'intervalle qu'on appelle aujourd'hui une quarte. Il a comblé avec des intervalles de 9 huitièmes, plus un reste, qui est 256 sur 243. Donc si vous faites cette opération, 9 huitièmes fois 9 huitièmes fois 256 sur 253, vous pouvez vérifier que ça fait bien 4 tiers. Et donc, en fait, concrètement, ça veut dire quoi? Que dans une quarte, c'est composé de un ton, plus un reste, qu'on appelait le demi-ton pythagoricien, du coup, qui vaut 256 sur 243. Et donc, là, ici, vous avez le début de notre gamme occidentale. Si je pars de Do, la note C, je rajoute un ton, j'arrive à Ré, je rajoute un ton, j'arrive à Mi, je rajoute le demi-ton, j'arrive à Fa, de Do à Fa, j'ai une quarte. Si je pars de Fa, je rajoute un ton, j'ai le Sol, je rajoute un ton, j'ai le La, je rajoute un demi-ton, j'ai le Si bémol. Et là, vous avez, grosso modo, un accord possible de la lyre à sept cordes au temps de la Grèce antique. À savoir qu'il y a, je vous ai dit que c'est de la musique qui était basée sur des tétracordes, c'est-à-dire quatre cordes. Et ces quatre cordes, pour arriver à sept, en fait, il y en a une qui était similaire, qui était conjointe, qui était superposée. Donc vous avez Do, Ré, Mi, Fa, premier
tétracorde, fa sol la si bémol, deuxième tétracorde. Et il y a les mêmes intervalles d'un tétracorde à l'autre. Et puis, entre les cordes extrêmes, c'était un peu gênant, ça faisait un intervalle un peu bizarre de septième qui était un peu dissonant. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, Pythagore... Ah oui, j'ai un problème avec ceci. Je ne sais pas pourquoi il ne s'affiche pas. Les tétracordes ont été séparés d'un ton. On a eu Do, Ré, Mi, Fa, et ensuite Sol, La, Si, Do, ce qui permettait de retomber sur un Do et d'avoir une octave avec une lyre à 8 cordes. Donc tout ça, c'est juste pour vous expliquer comment... aujourd'hui, notre musique, on utilise ces notes-là. Alors les Grecs, ça c'est un mode parmi tant d'autres. Hein. En fait, eux, ils se basaient sur les intervalles de quarte, de quinte et d'octave qui eux, étaient fixes. Et à l'intérieur, ils agençaient le chromatisme qu'ils voulaient. C'est eux qui ont inventé le mot chromatisme, chroma qui veut dire couleur. En fait, en fonction des l'agencement des demi-tons entre sous ces notes, voire même des quarts de tons, il y avait des couleurs différentes, des modes différents. Qui donnait des ambiances, on va dire, différentes. Et donc, forcément, si les nombres sont la clé de l'univers et qu'on trouve des nombres dans la musique, et bien les pythagoriciens se sont servis de la musique pour décrire l'univers. Là, je vous cite Aristote. Dans son livre Métaphysique, le même que tout à l'heure, au sujet des pythagoriciens, il dit ceci. Comme ils voyaient en outre que des nombres exprimaient les propriétés et les proportions musicales, ils considérèrent que le ciel tout entier est harmonie et nombre, et toutes les concordances qu'ils pouvaient relever dans les nombres et la musique avec les phénomènes du ciel et ses parties avec l'ordre de l'univers, ils les réunissaient et les faisaient entrer dans leur système. Et si une lacune se révélait quelque part, ils procédaient en hâte aux additions nécessaires pour assurer la complète cohérence de leur théorie. Donc ici, on a vraiment la preuve par écrit que Aristote, c'est à peu près moins 350 avant notre ère, de ce lien entre musique et astronomie, entre musique et l'univers et l'espace. Et alors, ce concept, d'harmonia mundi, que tout le monde était mathématique, pouvait aller très très loin, au point de frôler parfois le ridicule. Je vous cite un extrait de Sansorin, c'est un auteur romain, 3e siècle après le Christ, cette fois-ci. Donc là, on est quand même 600 ans après Aristote. Voici ce qu'il écrit. Cette part au sujet de la gestation du fœtus dans le ventre. Cette partie de la semence, donc du sperme, qui a donné lieu à la conception, n'est pendant les 6 premiers jours qu'un liquide laiteux, qui pendant les 8 jours suivants passe à l'état de sang. Ces 8 jours ajoutés aux 6 premiers présentent la première consonance appelée diatessarone. 8 par rapport à 6, c'est 4 tiers. 8 sixièmes, c'est 4 tiers, c'est pareil. Ensuite, il s'écoule 9 jours pour la formation de la chair. Ces 9 jours comparés aux 6 premiers sont dans le rapport de 2 à 3 et présentent la consonance diapinte, la quinte. Viennent ensuite 12 nouveaux jours pendant lesquels s'achève la formation du corps. Leur comparaison avec les 6 premiers jours établit le rapport de 1 à 2 et présente la troisième consonance appelée diapason. Donc, vous voyez que la présence du nombre dans l'univers pouvait aller très très loin dans la spéculation. On en recherchait partout. Et ce sont les Grecs aussi qui ont inventé les premiers la musicothérapie. Je vous cite un autre extrait de ce même auteur, qui dit « Voilà pourquoi le médecin Asclépiade, quand il avait à calmer les esprits troublés des frénétiques, parvenait souvent à les rendre à leur état normal par l'emploi de la symphonie. Hérophile, de son côté, qui professait le même art, prétendait que les pulsations des veines se font d'après les règles du rythme musical. Si donc il y a de l'harmonie dans les mouvements et du corps et de l'âme, il est hors de doute que la musique n'est point étrangère au fait de notre naissance. » Et donc, c'est la musique qui, en fait, réglait tout l'univers. Et la musique avait une importance capitale au sein même de la République et de la politique. Si vous lisez la République de Platon, vous y trouverez que tel mode musical doit être privilégié pour faire de bons citoyens. Tel autre mode doit être évincé parce qu'il a tendance à rendre les gens lascifs. Et donc, la musique était une science, une véritable science qu'on étudiait très sérieusement. Et c'est pour ça qu'elle est apparue dans le Moyen-Âge, dans ce qu'on appelle le quadrivium, qui sont ces études fondamentales. Il y avait le quadrivium et le trivium. Le trivium se rapportait à tout ce qui était la parole, la rhétorique, la dialectique. Et le quadrivium, c'était les sciences. Et dans le quadrivium, vous avez l'arithmétique, l'astronomie, la géométrie et la musique. Et la musique a été élevée au rang de science. Alors, tout ça, c'est le point de départ donc, de cette Harmonia Mundi qui a eu, je vous le dis, une influence considérable dans tous les arts, l'architecture, la politique, l'humanisme, etc. Maintenant, je vais me recentrer un peu plus sur la musique. Donc ça, c'est juste un petit tableau du XVIe siècle qui récapitule un peu tout ce qu'on vient de voir. Si je pars de la droite, vous avez des planètes, dans l'ordre qu'on a vu tout à l'heure, la Lune, Mercure, Vénus, Soleil, etc. Ensuite, vous avez des modes musicaux grecs, hippodorien, hypophrygien, hippolydien, dorien, phrygien, etc. Et puis entre les planètes, vous avez, il y a des semi-tons, des demi-tons, enfin des demi-tons, des tons, etc. Ensuite, vous avez les noms des cordes de la lyre, mèze, lycanos, paripate, tout ça, ce sont des, chaque corde de la lyre avait un nom. Et puis ensuite, sur la gauche, vous avez les huit muses, la neuvième étant en bas, sous la terre, Thalie, et tout en bas, donc vous avez la terre, avec au centre la terre, puis un premier cercle avec l'eau, et puis l'air, et puis Inis, le feu, donc les quatre éléments. Donc tout ça, c'était un peu la vision de la cosmogonie dont on a hérité, dont l'Occident romain, latin, a hérité des Grecs. Et en gros, ça a été valable pendant 2000 ans, de Pythagore jusqu'à la révolution copernicienne et Galilée. C'est comme ça que symboliquement, on concevait l'univers et le ciel qui nous entoure. Alors, bien sûr, après, la chrétienté s'en est emparée, parce que vous savez que les chrétiens, pour s'implanter, ben, ils ont basé beaucoup de choses sur les cultes païens et sur les connaissances. Et donc, voici un petit extrait d'un manuscrit qui est la hiérarchie céleste, en fait. C'est un manuscrit du XIIe siècle. Vous retrouvez sur la gauche de l'axe Terre, en partant du bas, Terre, Lune, Mercure, Vénus, Soleil, etc. Donc les planètes. Puis si on continue à monter, au-dessus du ciel étoilé, on commence à voir apparaître des noms bizarres. Alors, bon, c'est difficilement lisible, hein, mais je vous mets à côté. Voilà. Les virtus, les puissances, les principes, les dominations, les chérubins, etc., les séraphins, ce sont toutes les légions des anges. Donc en fait, on a continué à imaginer que la musique continuait, bien entendu, au-delà de la voûte étoilée, et qu'au paradis, il y avait plein de musique. Et puis sur la colonne de droite, vous avez les noms des cordes de la lyre, les noms, des noms beaucoup plus compliqués, parce que là, on a commencé à rajouter, on était déjà à une quinzaine de... Il fallait une quinzaine de cordes pour exprimer tout ça. Et donc, c'est de là qu'est né plus ou moins le concept des anges musiciens, dont vous retrouvez des représentations dans des enluminures. Ok. Tiens bien là. Donc, maintenant, pour en venir proprement dit à la musique des sphères. Le concept de musique, il est parti d'un postulat simple. Je vous cite encore Aristote, qui dit « Il y a des gens qui se figurent, donc les gens, hein, ce sont les pythagoriciens toujours, il y en avait beaucoup après les pythagoriciens, Aristote. Il y a des gens qui se figurent que le mouvement de six grands corps, donc les planètes, doit produire nécessairement du bruit, puisque nous entendons autour de nous le bruit que font des corps qui n'ont ni une telle masse, ni une telle rapidité égale à celle du Soleil et de la Lune. Par là, on se croit autorisé à conclure que des astres aussi nombreux et aussi immenses que ceux qui ont ce prodigieux mouvement de translation ne peuvent pas marcher sans faire un bruit d'une inexprimable intensité. En admettant d'abord cette hypothèse, et en supposant que ces corps, grâce à leurs distances respectives, sont pour leur vitesse dans les rapports même des harmonies musicales, ces mêmes philosophes en arrivent à prétendre que la voix des astres qui se meuvent en cercle est harmonieuse. » Donc voici le point de départ de la musique, des sphères, toutes les spéculations, on se dit que tout ce qui bouge, forcément, ça doit faire du bruit. Et que, comme l'univers est mathématique, que la musique est mathématique, cette musique-là, on a beaucoup spéculé pour savoir quelle était cette musique, quels étaient ces sons que faisaient ces planètes, parce qu'on n'entendait rien. Alors, il y a eu beaucoup d'explications sur le fait qu'on n'entendait rien. Certains ont dit que, comme c'est là depuis la naissance, de la même façon que quelqu'un qui naît à côté d'une cascade, au bout d'un moment, le bruit de la cascade, il n'entend plus, nous, on est né avec le bruit des planètes et que du coup, notre oreille n'est plus habituée à l'entendre. Mais tout de même, tout le monde n'était pas d'accord avec ça. Aristote le premier dit ceci. Quand on nous parle d'une harmonie résultant du mouvement de ces corps pareil à l'harmonie des sons qui s'accorderaient entre eux, on fait une comparaison fort brillante, sans doute, mais très vaine, ce n'est pas là du tout la vérité. Mais cela dit, Aristote ne propose pas autre chose. Il dit juste que les pythagoriciens ont tort de penser que tout cela fait de la musique. Et cela dit, Léonard de Vinci, je vous cite, donc là on est au XVIe siècle, qui dit « Le son résulte du coup d'un corps frappant l'air, et s'il est fait entre deux corps, c'est au moyen de l'air. Il s'en suivrait que les cieux ne produisent pas de son en se frottant faute d'avoir d'air entre eux. En effet, si ce frottement avait lieu depuis tant de siècles, durant lesquels ils ont tourné, les cieux seraient abolis. » Parce que forcément, à force de frotter, ça use, ça use, ça use, donc tout ça n'existerait plus. Et s'il faisait un son, ce son ne pourrait se répandre. Parce que s'il y avait de l'air, il y aurait des frottements, et donc il n'y aurait plus rien. Donc comme il y a encore quelque chose, c'est qu'il n'y a pas d'air. Et donc s'il n'y a pas d'air, il ne peut pas y avoir de propagation du son. Ça, c'est Léonard de Vinci qui dit ça. Il n'était pas bête tout de même. Hein. Mais voilà, jusqu'à Léonard de Vinci, on a quand même essayé de spéculer pour savoir quelle était la musique qu'on pouvait entendre là-haut. Alors voici un petit texte. 3e siècle avant Jésus-Christ. La terre au centre donne le son grave de l'hypate. L'hypate, c'est la corde la plus grave de la lyre. La sphère étoilée donne la nette conjointe. La nette, c'est le son le plus aigu de la lyre. Le soleil au milieu des astres errants fait résonner la mèze. La sphère de cristal est en accord de quarte. Donc en fait, vous avez, je ne vais pas tout vous lire, mais grosso modo, voilà, Mercure roule d'un demi-ton inférieur à Vénus. On a une spéculation sur les intervalles qu'il pourrait y avoir entre les planètes, les sons que ça pourrait faire. Et cette spéculation, il y en a eu beaucoup. Voici, ce tableau n'est pas du tout exhaustif, mais en gros, chez Cicéron, on trouve un demi-ton entre la Lune et la Terre, un ton entre Mercure et Vénus, etc. Sans Saurin, on trouve d'autres agencements, Pline, Marius Capella, Bouès, très important, un théologien qui a répandu énormément de connaissances au Moyen-Âge, qui a écrit des livres qui ont été extrêmement répandus, et puis vous voyez qu'il n'était pas d'accord avec lui-même, parce que selon ses écrits, on trouve des choses différentes. Donc tout ça, ça a été de la spéculation pour savoir quels sons pouvaient faire les planètes. Donc, comme je vous ai parlé tout à l'heure de la chrétienté, qui s'est emparée de ça avec les anges, voici un vitrail de la cathédrale de Sens, qu'on a appelé le concert céleste. Avec des anges musiciens partout, c'est un vitrail magnifique. Et parce qu'on s'est dit que quand même, avec tout ça, là-haut, il devait y avoir vraiment de la belle musique. Et puis, cette musique qui était monodique jusqu'à présent, c'est-à-dire tout le monde jouait à l'unisson, la musique grecque, c'était une musique essentiellement monodique, avec une seule voix, on s'est dit que c'était pas possible qu'avec tous ces anges qu'il y avait là-haut, cette musique soit monodique, forcément c'était une véritable symphonie. Donc ça a encouragé le développement de la polyphonie, cette vision du ciel, et des liens entre l'univers et la musique a encouragé le développement de la polyphonie. Alors la polyphonie, elle s'est développée d'abord sur les intervalles de base, les intervalles les plus consonants, les intervalles les plus sacrés, à savoir la quarte, la quinte et l'octave. Et je vais vous faire écouter un chant grégorien. Et ce chant, il va être harmonisé. Donc vous allez d'abord l'entendre à l'unisson, et puis ensuite vous allez entendre une première voix qui se greffe, qui tient une note, on appelle ça un bourdon, et puis ensuite une polyphonie qui va apparaître avec d'autres chanteurs qui chantent la même mélodie que la mélodie initiale, mais avec l'un à la quinte au-dessus et puis l'autre à l'octave au-dessus. Un son qui tient. Et là. Donc la première polyphonie a un son qui tient. Quinte au-dessus, une mélodie à l'octave au-dessus, etc. Donc ça, c'est première polyphonie, on est à peu près au 9e siècle. On est à peu près au 9e siècle, et c'est ainsi que la musique commence à s'émanciper de l'unisson elle devient polyphonique. Et puis, il va y avoir de plus en plus de hardiesse, toujours en se calquant sur les choses de l'univers. Donc au début, on a utilisé les intervalles qu'on considère comme les plus consonants, les rapports les plus simples, hein, deux tiers, trois quarts, tout ça, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, on va petit à petit structurer la musique, parce que forcément, l'univers est structuré, on s'aperçoit que tout ça, il y a quelque chose qui agence tout ça. Donc, on va structurer la musique, les progrès de la notation musicale vont permettre de structurer la musique. Et notamment, au XIVe siècle, ce sera un siècle extraordinaire, bouillonnant, foisonnant d'idées. Le premier à avoir structuré la musique, il y a eu Jean Desmures, qui était un théoricien, et un évêque qui s'appelle Philippe de Vitry. Cet évêque, c'est un peu le Boulez de l'époque. Il a conceptualisé la musique. Il s'est dit, je vais vous montrer en exemple ce qui se faisait. Donc, j'ai appelé ça la musique algorithmique. C'est-à-dire qu'il y a un algorithme, vous savez, un algorithme, c'est une règle qu'on établit. Et là, on établit une règle qu'on va répéter. Par exemple, je ne sais pas s'il y a des musiciens parmi vous qui savent bien la musique. Et si quelqu'un est capable de me dire, sans tenir compte du rythme, juste en regardant les notes, donc do, ré, mi, do, ré, etc., si quelqu'un identifie un chant très connu que vous connaissez tous. Non. Non, c'est Frère Jacques. Frère Jacques, si je vous dis juste les notes, ça fait do, ré, mi, do, mi, fa, sol, sol, la, sol, fa, mi, do, sol, la, sol, fa, mi, do, sol, do, sol, do. Donc ce sont toutes les notes de Frère Jacques. Sauf que là-dessus, j'ai appliqué un rythme qui est noir pointé, croche, noir, soupir. Et vous voyez que ça se répète, noir pointé, croche, noir pointé, croche, noir, soupir, etc. Ça se répète, ce rythme se répète en boucle. Donc ce réservoir de notes de Frère Jacques, on appelle ça la color, c'est ce qui donne la couleur. Et puis, ce rythme, on appelle ça la thaléa. Et ce rythme, on le répète à la manière d'un algorithme. On le duplique, on le duplique, on le duplique. Résultat, si je vous chante ce qui est écrit, ça fait do, ré, mi, do, ré, mi, fa, sol, sol, la, sol, fa, mi, do, sol, la, sol, fa, mi, do, sol, do. Bien heureux celui qui arrive à reconnaître Frère Jacques là-dedans. Mais c'est ce qui a été fait au XIVe siècle. Voici, au XIVe siècle, donc, il y a eu Philippe de Vitry qui a inventé ce qu'ils ont eux-mêmes appelé l'ars nova par rapport à l'ars antica, qui était l'art d'avant, la musique d'avant. Et donc cet art nouveau, c'était quelque chose d'extraordinaire. Voici la partition du Kyrie que vous avez entendue tout à l'heure. C'est une partition grégorienne sur quatre lignes, avec une clé dute en haut. Donc ça fait la, la, sol, la, do, si, la, sol, fa, ré, mi, etc. Donc, en dessous, vous avez une figure rythmique, avec rond pointé, blanche, ronde, rond pointé. Eh bien, au XIVe siècle, il y a un célèbre musicien qui s'appelle Guillaume de Machaut, qui a écrit la première, ce qu'on considère aujourd'hui comme étant la première messe complète, polyphonique, à quatre voix, qui s'appelle la messe de Notre-Dame. Et il a utilisé ce procédé-là dans la messe de Notre-Dame. C'est-à-dire qu'il y a une des voix qui s'appelle la teneur, qui a donné le ténor. La teneur, pourquoi ? Parce que c'est elle qui tient le chant, qui va chanter ça. Donc vous avez les notes du Kyrie qu'on a entendu tout à l'heure, hein, du Kyrie grégorien. La, sol, la, do, si, la, sol, la, sol, fa. Mais auquel on a appliqué ce motif rythmique que vous voyez là. Et je vais vous faire écouter ce que ça donne. Donc là, vous avez le chant grégorien. C'est le même que tout à l'heure dans une autre tonalité, un peu plus basse. Ou dans la tonalité utilisée pour la messe. Donc à la base, c'est un chant du 9e siècle. Et voici ce qu'on en fait au 14e siècle. Ça, c'est la partition de Guillaume de Machaut. Voilà. La voix de ténor, vous voyez des blocs rouges qui sont numérotés 1, 2, et vous retrouvez en fait le chant le thème grégorien avec cette formule rythmique qui est appliquée. Les autres blocs de couleurs que vous avez, c'est pour distinguer d'autres aléas, d'autres formules rythmiques qui sont répercutées et employées d'une fois à l'autre. Vous voyez tous ces éléments qui se répètent. On est vraiment dans Forcément, après il y a le Christé, puis il y a le Kyrie. Donc voici les expérimentations musicales qu'on commençait à faire pour structurer cette musique-là. Et il y a eu d'autres expérimentations, donc toute la messe est construite sur ce, avec des procédés similaires. Donc après la musique algorithmique, voici un exemple de musique symétrique. Toujours 14e siècle, le même Guillaume de Machaut. Voici un manuscrit. Il n'y a pas quelque chose de bizarre là-dessus, sur ce manuscrit ? Il n'y a rien qui vous perturbe ? Allez-y, allez-y, parlez plus fort. Il n'y a rien qui vous saute aux yeux, là ? Alors oui, il y a cinq lignes, ça c'est parce qu'on avait, on était déjà passé à aux portées de cinq lignes à cette époque-là. Vous ne remarquez pas que le M en bleu, il est à l'envers ? Et en fait, si vous regardez, les paroles qui partent du M en bleu sont toutes à l'envers. Il y a écrit ma, fin, et en remontant, donc ça fait ma, fin, et mon commencement, ma, fin. Et si vous regardez sur la gauche de, la porte, de chaque portée, vous avez deux petits carrés légèrement obliques, là, des parallélogrammes superposés, ça c'est une clé d'ut. Donc vous avez bien la clé qui est à gauche, mais les paroles sont à l'envers. Et en fait, c'est parce qu'il y a deux chanteurs qui chantent sur cette ligne. Un qui chante en partant du haut, donc en lisant les notes dans un certain sens, et un autre qui chante en partant du bas, du M majuscule bleu, en lisant les notes à l'envers. Donc si je prends le chanteur du bas, quand il va partir en lisant vers la gauche, il va commencer par descendre les trois premières notes avant de remonter. Alors que celui qui part d'en haut, quand il va arriver en bas, il va finir en descendant trois notes et puis en remontant comme ça. Et vous avez une troisième voix en bas, qui est le contre-ténor. Lui, il va lire sa ligne et quand il va arriver à la double barre, il va repartir en sens inverse.
Voici ce que ça donne.
La jeune, si vous voulez suivre, fine, il arrive sur vos fins. En sens inverse. Musique, première musique symétrique de l'histoire, un canon rétrograde, 14e siècle, Guillaume de Machaut. Et cette musique-là, en plus, les paroles, ma fin et mon commencement, à la fois ça indique la règle, ça, c'est un truc hein, qui stipule qu'on doit à la fois partir du début et de la fin, mais en même temps il y a un côté spirituel à ça. Ma fin et mon commencement, on est quand même dans l'âge d'or de la chrétienté, c'est un peu ben, quand je meurs, je commence ma vraie vie. Donc ici on a une symbiose parfaite entre musique, géométrie et spiritualité. Et au siècle suivant, 15e siècle, on a inventé la musique proportionnelle. La musique proportionnelle, c'est quoi ? C'est que tout le monde chante la même chose, mais à des vitesses différentes, avec des rapports de 2 à 3, justement. Voici un exemple d'un compositeur qui s'appelle Ockeghem, avec une messe qui s'appelle la Missa Prolationum, la messe proportionnelle. Donc ça, c'est le manuscrit du Kyrie. Donc si je prends la partie du haut, vous avez donc la clédute avec ces deux carrés blancs superposés là. Et ensuite, vous avez un rond et un C. Le C, vous le reconnaissez. En musique contemporaine, aujourd'hui, on utilise le C parfois parce qu'il signifie 4-4. Et donc le rond et le C sont deux divisions différentes de la musique. Et ça veut dire qu'il y a deux chanteurs qui vont chanter la même chose, mais à des vitesses différentes. Et en dessous, vous avez une autre voix où là, vous avez un rond point avec un point et un C avec un point. Ce sont encore d'autres divisions de la musique. La musique, elle était soit divisée en deux, soit en trois. Donc, vous allez avoir des superpositions comme ça de divisions en deux et en trois. Je vais vous montrer ça sur une partition en écriture. Voilà. Vous regardez la première ligne. Vous avez Fa, Do, Fa, La, Mi, Fa, etc. La deuxième ligne, vous avez les mêmes notes. Fa, Do, Fa, La, Mi, Fa. Mais là où c'est des blanches en haut, en bas ce sont des blanches pointées. On a un rapport de 3 demi, une fois et demi, entre les deux voix. En dessous, les lignes 3 et 4, la ligne 3, vous avez Fa, La, Fa, Do. Sur les lignes 4, vous avez bien Fa, La, Fa, Do. Et vous voyez aussi que les notes, elles sont plus longues, que ça se décale. Et ceci sonne ainsi. Perdu. Voilà. Tout ça, ça sonne bien. Hein. Et donc, ce Ockeghem a écrit toute une messe complète, tous les mouvements de la messe, bon, et après, etc. Il a écrit tous les mouvements de la messe, comme ça, basés sur des canons proportionnels. Et chose admirable, c'est qu'en plus de cette difficulté où ça se décale dans le temps, chaque mouvement, donc le Kyrie, le Christe, le Kyrie, puis le Gloria, le Credo, etc., les canons se décalent aussi en hauteur, c'est-à-dire qu'au début, le canon est à l'unisson. Tout le monde chante. S'il y en a un qui fait Fa la Fa, l'autre va faire Fa la Fa aussi. Et ensuite, les canons vont se décaler. Pour le Christé, s'il y en a un qui fait Fa la Fa, l'autre va chanter Sol, Si, Sol en décalé. Donc ça va se décaler d'une seconde, puis d'une tierce. Là, c'est un extrait de la partition, on est au milieu du credo. Patrem, omnipotentem, fa, etc. Factorem, celi et terre. Vous voyez que là, il y a deux clés superposées. Au début, avec deux bémols, chacun a un si bémol en fait, et on retrouve les deux mêmes signes, donc un C barré, puis un rond, enfin un C avec un point, puis un rond avec un point, et entre les deux clés en fait il y a un intervalle de quinte. Donc non seulement ils vont chanter la même mélodie qui va se décaler dans le temps, mais en plus ils la chantent pas à la même hauteur. Et ça va le décalage va passer par tous les intervalles, donc seconde, tierce, quarte, quinte, sixte, septième, jusqu'à arriver au moment du hosanna dans la messe, où là, il y a un décalage à l'octave. Il atteint le maximum d'intervalle possible sur le hosanna. Et là, c'est hautement symbolique aussi. Le hosanna, c'est le moment clé de la messe, le sanctus. C'est le moment où tout le peuple se rassemble. Hosanna au plus haut des cieux. Et ainsi, il symbolise le fait que l'élévation spirituelle, depuis le moment où on commence la messe avec le Kyrie, on reconnaît nos péchés, etc., jusqu'au moment où cette gloire éclate au ciel avec ce Hosanna. Et ensuite, il reste le Benedictus et l'Agnus. Pour le Benedictus, il va utiliser la quinte. Pour l'Agnus, il va utiliser la carte. Il utilise les deux intervalles les plus consonants depuis la Grèce antique. Il vient d'utiliser l'octave, puis la quinte, puis la carte. Et la messe, c'est fini. Et il a fait le tour. On a atteint la perfection. On a été purifié par cette messe. Donc, musique proportionnelle. Et puis, il y avait quelques hardiesses éditoriales aussi, comme cette très jolie partition, ici. On est encore au XIVe siècle. Vous voyez les paroles, là ? En la maison d'Édalus, enfermée, madame, etc. Donc, Dédale, on a un labyrinthe. Et si vous regardez attentivement la partition, j'enlève toutes les notes, qu'est-ce qui reste derrière ? Ben, en fait, les portées dessinent un véritable labyrinthe, avec une entrée et une sortie qui permet d'atteindre Ariane au milieu. Dans cette musique, il y a un petit canon aussi. Il y a une voix principale. Et puis, il y a une voix qui est en canon. Donc, à gauche, le cantus, la voix principale. Vous voyez qu'en bas, à droite, hop, ça vient de démarrer. C'est en canon de la voix en haut à droite. Bon. Etc. C'est malheureusement le seul enregistrement que j'ai trouvé, c'est avec un luth. J'aurais préféré trouver un enregistrement où les deux voix intermédiaires étaient chantées par une voix pour qu'on ait plus la notion harmonique qui ressorte. Donc, tout ça, ça découle de cet héritage des Grecs, comme quoi l'univers est structuré, donc la musique, il faut la structurer, etc. Et vous voyez l'influence que ça a eu sur le développement de la musique. Et puis, il y a eu une influence aussi, l'influence a continué aussi sur l'esthétique musicale. Et là, je vous lis un extrait de Zarlino, qui est un théoricien du XVIe siècle. Il a écrit ceci. Donc, XVIe siècle, on est à l'aube de la musique baroque. Hein. Les musiciens ont l'habitude d'introduire dans leur chant quatre parties, donc en général soprano, alto, ténor, basse, qui, disent-ils, contient toute la perfection de l'harmonie à la façon des quatre éléments, c'est-à-dire l'eau, la terre, l'air et le feu. Ainsi, comme tout corps est composé du mélange de ceci, comme tout corps est composé du mélange des quatre éléments, tout chant parfait est composé de cela, c'est-à-dire tout chant parfait est composé des quatre voix, soprano, alto, ténor, basse. Et comme le feu nourri est la cause de toute chose naturelle que l'on trouve pour l'ornementation et la conservation du monde, le feu est le fondement de tout ce qu'il y a dans le monde, ainsi le compositeur s'efforcera de rendre la partie la plus aiguë de son chant belle, ornée et élégante, donc un peu à la manière des flammes qui virevoltent, de façon à ce qu'elle nourrisse et satisfasse l'âme de ceux qui l'écoutent. Donc ce discours préfigure en fait l'apparition de toute l'ornementation qui va avoir lieu dans la musique baroque, où le chant va subir des tris, des ornements, des ports de voix, des tas de choses. Donc vous voyez que là, l'influence de cet héritage grec est vraiment considérable dans l'évolution des arts, et de la musique en particulier. Et puis finalement, les sciences elles ont quand même évolué aussi, les connaissances, etc. Est arrivé ce que j'appelais la révolution copernicienne, mais qui aurait pu s'appeler la révolution galiléenne, parce que c'est plus Galilée qui a confirmé l'intuition de Copernic. C'est à partir de Copernic que les idées commencent à changer, que finalement la Terre n'est pas au centre, mais c'est le Soleil qui est au centre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette idée-là, c'est pas Copernic qui l'a inventée, hein. Les Grecs ils le savaient déjà, enfin du moins ils le savaient. Certains Grecs avaient imaginé que cela était possible. Voici par exemple une gravure du XVIe siècle qui reprend un écrit grec d'Héraclite Dupont. Donc là on est, vous voyez les dates, hein, 4e siècle avant notre ère. Dans son idée, il avait mis déjà Vénus et Mercure autour du Soleil. Alors le Soleil était encore autour de la Terre, mais on avait déjà Vénus et Mercure qui étaient autour du Soleil. Pourquoi ? Parce que les Grecs, ils faisaient beaucoup, beaucoup d'observations, et ils avaient observé quand même qu'il y avait des trucs bizarres. Si vous regardez les planètes, elles ne tournent pas forcément. Si vous faites des relevés de position, ce n'est pas linéaire. Parfois, il y a un petit mouvement rétrograde qui fait que du fait que la Terre... le point de vue par rapport à la Terre, quand la Terre ne se dépasse pas à la même vitesse que Jupiter, par exemple, on a des petits mouvements rétrogrades qui se créent. Et il y a aussi ce qu'on appelle la précession des équinoxes, le fait que la Terre soit sur un axe penché comme ça. On observe la position des étoiles et des planètes change sur 26 000 ans, la période. Mais donc, les Grecs avaient observé qu'il y avait des incohérences dans leur modèle. Donc, parfois, il y en a certains qui avaient été jusqu'à imaginer 56 sphères pour justifier, emboîter les unes dans les autres avec des mouvements contraires, plus ou moins rapides, pour justifier que la combinaison de tout ça permettait de correspondre à ce qu'on observait. Donc, il y a Héraclite Dupont, lui, qui avait proposé que Mercure et Vénus soient autour du Soleil. Et puis, on a un autre qui s'appelle Aristarque de Samos, qui lui avait proposé carrément que le Soleil soit au milieu. Je vous cite Archimède. Vous connaissez tous, c'est la poussée d'Archimède. Là, on est au 3e siècle avant Jésus-Christ. Archimède a écrit ceci. « Tu sais que l'univers est décrit par la plupart des astronomes comme une sphère dont le centre est le même que celui de la Terre. Aristarque de Samos rapporte ces choses en les réfutant dans les propositions qu'il a publiées contre les astronomes. D'après ce qui est dit par Aristarque de Samos, l'univers serait beaucoup plus grand que nous venons de le dire. Il suppose que les étoiles et le Soleil sont immobiles et que la Terre tourne autour du Soleil comme centre. » Donc l'héliocentrisme, c'est pas une idée nouvelle, c'est une idée très très ancienne, mais qui n'a pas eu, malheureusement, qui n'a pas retenu la majorité des personnes. Ça n'a pas été le courant majoritaire, donc du coup, c'est le géocentrisme qui s'est imposé pendant longtemps, jusqu'à ce que Copernic redécouvre un peu ses auteurs grecs et se dise, mais après tout, est-ce qu'il n'aurait pas raison? Et là, je vous cite une lettre que Copernic a écrite au pape en 1543. Il dit au pape, « Je trouvais d'abord chez Cicéron que Nicétus pensait que la Terre se mouvait. Plus tard, je retrouvais aussi chez Plutarque que quelques autres ont également eu cette opinion. Partant de là, j'ai commencé moi aussi à penser à la mobilité de la Terre. » La citation est un peu plus longue, je vous la fais courte. Mais c'est pour vous dire que voilà, Copernic, il n'a pas inventé grand-chose, il a simplement redécouvert des écrits grecs. Et partant de là, il s'est dit, mais après tout, est-ce qu'ils avaient raison? Et puis Galilée aussi, ils se sont reposés des questions, ils ont observé les choses. Donc finalement, pendant tout le Moyen-Âge, c'est un peu ça qui a prévalu, hein, avec la Terre au centre et puis les planètes autour dans des sphères. Et puis finalement, à partir du XVIe siècle, XVIIe, on s'est dit, non, c'est le Soleil finalement qui est au milieu. Vous voyez le Soleil au milieu, avec la Lune qui tourne autour de la Terre. Donc ça, forcément, ça a eu un gros impact sur toute cette spéculation théorique de musique des sphères, de l'organisation de l'univers, etc. Néanmoins, ça n'a pas disparu comme ça d'un coup. Kepler, par exemple, qui était un astronome, Kepler a utilisé des observations de Tycho Brahe, un de ses confrères, et il a calculé la vitesse de déplacement des planètes. Il a observé que la vitesse n'était pas constante. D'abord, Kepler, il a dit que les orbites étaient elliptiques. C'était l'une des premières lois de Kepler de dire que ça tournait pas en rond, mais que ça tournait en ellipse. Et il a calculé, par exemple, il a fait ça pour chaque planète, hein, mais par exemple pour Saturne, l'aphélie, c'est le point le plus éloigné du Soleil. Saturne se déplace lentement, elle se déplace à 106 secondes d'arc par jour. Une seconde d'arc, c'est 1/3600 de degré. Au périhélie, donc autour du Soleil, la planète, elle accélère quand elle approche du Soleil, et autour du Soleil, au point le plus proche, elle se déplace à 135 secondes d'arc. Il a arbitrairement dit, parce qu'il n'y a aucune correspondance physique à ça, mais il a arbitrairement dit que 106 secondes d'arc par jour, ça fait 106 Hertz, ça équivaut à un sol grave. 135 secondes d'arc, ça fait 135 Hertz, ça équivaut à un si grave. Et du coup, il a élaboré des gammes planétaires. Voici ce qui se trouve dans un des manuscrits, enfin, c'est plus un manuscrit, là, c'est de Kepler. Donc on est au XVIe siècle, début du XVIIe siècle. Il a élaboré des gammes musicales, donc vous voyez Saturne qui part du sol, qui monte aussi, forcément pour aller du sol aussi, il faut passer par le la. Donc sur toute sa période de révolution, Saturne fait sol, la, si, la, sol. Il a fait ça pour chaque planète, et vous voyez que Mercure, elle navigue très très loin, ça veut dire que sa vitesse entre le point le plus éloigné et le point le plus proche change énormément. Vénus, par contre, elle est plutôt stable, parce que sa vitesse ne bouge quasiment pas sur toute son orbite. Mais, quand même, on va sortir un peu de tout cet aspect mathématique et cette harmonie des sphères, on va la conceptualiser de manière après beaucoup plus symbolique. Donc, cette musique, vous avez déjà la musique symbolique de chez Bach. Vous savez que Bach, c'était le grand architecte de la musique. Toutes ces fugues sont hyper structurées avec des mouvements qu'on en a vu chez Guillaume de Machaut, des mouvements rétrogrades, des mouvements inverses, etc. Quant au nombre chez Bach, il y a beaucoup de spéculations pour ne pas dire d'élucubration parfois, sur la présence de nombres J, BAC, B, A, C, H, ça correspond à 2, 1, 3, 8, par rapport à l'ordre des lettres dans l'alphabet. Si on fait la somme, ça fait 14, en rétrograde, ça fait 41. Donc il y a des gens qui se sont amusés à retrouver tous ces chiffres-là, 2, 1, 3, 8, 14, 41, etc., dans l'œuvre de BAC. Ils ont trouvé beaucoup de choses. Maintenant, c'est comme les statistiques. Je pense qu'on peut faire, dire beaucoup de choses aux chiffres. Ça, c'est mon point de vue personnel. Mais si ça vous intéresse, il y a énormément de livres qui sont sortis sur le sujet, qui partent dans des considérations ésotériques très, très, très profondes. Mais toujours est-il que sa musique n'en reste pas moins très mathématique, un peu comme ce qui a été fait au XIVe siècle. Voici un exemple d'une fugue qui démarre, vous voyez, avec un ré, la, sol, fa, mi, ré. Et puis si vous regardez là, en haut, en fait, on a un sujet inverse, c'est-à-dire qu'en bas, on démarre avec une quinte qui monte, en haut, on démarre avec une quinte qui descend. Et puis ensuite, cette quinte qui descend, elle va remonter, alors qu'en bas, cette quinte qui a monté, elle va redescendre. Donc ici, on a la mélodie qui est inversée entre le haut et le bas, donc une symétrie horizontale. Et puis, si vous regardez le rythmique, ben, on a un rapport 2 entre les deux, puisque en bas, ça fait blanche, noir pointé, croche, et en haut, tout est divisé par 2, noir, croche pointé, double. Donc ça c'est un exemple de musique chez Bach qu'on retrouve partout. Et donc ça se trouve dans l'art de la fugue. Et toujours dans l'art de la fugue, voici la dernière fugue. Alors il y a trois thèmes qui sont utilisés dans cette dernière fugue. Le premier est écrit en clé de fa, le deuxième est écrit en clé dut au milieu, puis il y a un troisième thème écrit en clé dut qui fait apparaître si bémol, la, do, si bécard. Vous qui êtes mélomane, vous savez que ça, c'est la signature BACH dans l'alphabet allemand. Le B correspond à un si bémol, alors que le H correspond à un si bécard. Ce sont... Et donc, c'est dans cette fugue-là, il a utilisé ce thème. Le thème réapparaît transposé au-dessus. Ici, il réapparaît sur les bonnes hauteurs, si bémol, do. Là, il apparaît à la basse, transposé. Là, il réapparaît à la bonne hauteur. Et puis après, il va apparaître inversé. C'est-à-dire que le descente, ça va monter. Regardez la voix d'alto, la deuxième ligne. C'est le BACH, mais on monte en inverse. Donc, symétrie horizontale. C'est écrit bien CH sur cette partition, c'est-à-dire que c'est à la bonne hauteur. Mais le thème, il est bien sûr plusieurs fois ailleurs. Là, il apparaît à la basse en inverse. Ça monte, ça descend, puis ça remonte. Donc cette signature, elle est répétée un nombre de fois. Et là, la musique. A écrit un truc qui est de Carl-Philippe Emmanuel Bach qui dit que le compositeur est mort là-dessus en écrivant cette fugue-là. On sait aujourd'hui que c'est faux, qu'il a écrit ça 10 ans avant sa mort et qu'il s'est arrêté là, a priori, volontairement. Est-ce qu'il s'est arrêté là parce qu'il manquait d'inspiration? Vu la quantité de musique de Bach, on peut en douter. Donc il y avait peut-être un geste volontaire pour s'arrêter là. Il s'arrête à la mesure 239. 239, c'est 238 plus 1, 2, 3, 8, 1... qui correspondent à l'ordre des lettres B, A, C, H. Est-ce qu'il a vraiment voulu ça ou pas? À chacun de se faire son opinion, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'organisation dans la musique de Bach. Cette organisation-là, elle vient du fait qu'il était protestant et que Luther a ardemment défendu cet héritage grec de l'organisation du cosmos. Je vous fais écouter quelque chose de très, très étrange aussi. On croirait que c'est de la musique contemporaine, mais ça a été écrit il y a 300 ans. C'est vraiment écrit comme ça sur la partition. C'est violent quand même. Donc ça, c'est l'ouverture d'un ballet au XVIIe siècle, 1737. Et plutôt étonnant comme musique. Ce ballet s'appelle Les Éléments, et donc en fait, il symbolise ici la création du monde, l'espèce de big band, le chaos, le magma qu'il y avait au début, en superposant toutes les notes de la gamme, do, ré, mi, fa, sol, la, si, enfin on est en sol mineur, donc plutôt sol, si, etc. Et il fait jouer tout l'orchestre, ces sept notes, puis il les répète avec insistance, et du chaos va naître l'ordre. Il égrène ensuite la gamme, donc toutes les notes, sol, la, si, il monte comme ça, pour dire, voilà tout ce qu'il y avait à l'intérieur, tous ces éléments qui étaient mélangés, il les fait apparaître, et ensuite ça se finit sur un accord, parce que cette musique-là va s'organiser. À partir du chaos, on va avoir l'organisation de l'univers. Donc ici, on est dans quelque chose de vraiment très hautement symbolique, et qui se rattache à l'idée de cette harmonie mondiale, de cette harmonie du monde. Après, bien sûr, on va s'éloigner un petit peu de ça, on va avoir des considérations diverses. Vous connaissez tous les planètes de Gustav Holst, qui lui va s'attacher plutôt au caractère mythologique des planètes. Donc ici, on est dans quelque chose de vraiment très hautement symbolique et qui se rattache à l'idée de cette harmonie mondiale, de cette harmonie du monde. Après, bien sûr, on va s'éloigner un petit peu de ça. On va avoir des considérations diverses. Vous connaissez tous les planètes de Gustav Holst, qui lui va s'attacher plutôt au caractère mythologique des planètes. Donc là, on s'éloigne un peu du concept d'harmonia mundi. Mais voici Mars, par exemple, avec ce rythme très guerrier. Parce que Mars est un guerrier. Et c'est un rythme qui influencera énormément de compositeurs de musique de film. Bon, ça vous pouvez l'écouter librement. Et puis, Guillaume Connaisson, qui lui est un compositeur contemporain, qui va faire de la musique descriptive, où sa musique décrit l'explosion d'une supernova. Bon, ça c'est tout le magma qui est dans cette étoile qui bouge. Qui va croître jusqu'à la fin, exploser. Si vous ne connaissez pas Guillaume Connaisson, je vous le recommande comme compositeur, c'est très très beau. C'est vraiment très inspiré de la musique française, des harmonies de Debussy, Ravel, tout ça, c'est vraiment magnifique. Voici un compositeur américain, George Crumb, qui a fait une très belle partition qui s'appelle Twin Sun, Soleil Double. Donc tout ça, ça se rapproche de la partition que vous avez vue au Moyen-Âge. Finalement, ce sont ce que j'appelais des hardiesses éditoriales. Mais voilà, on s'est un peu éloigné ici de la musique des sphères. Pour revenir vraiment à la musique des sphères, il faut attendre John Cage. John Cage, compositeur très expérimental, américain. Qu'est-ce qu'il a fait dans les années 60? Il a pris une cartographie du ciel d'un astronome tchèque, Petchvar. Et puis, sur cette cartographie du ciel, alors il y en a plusieurs planches, hein, il a collé du calque sur lequel il avait tracé des portées. Et puis, chaque fois qu'il y avait une étoile qui apparaissait sur une portée, ben, ça faisait une note. Donc voici une esquisse des étoiles décalquées. Et puis, voici une partition finale. C'est ça, c'est ce que joue le violon 2 dans l'orchestre, parce que c'est une partition pour orchestre. Et au musicien d'interpréter ça comme il l'entend. Il y a des notes qui sont reliées entre elles avec des points d'orgue sur lesquels il doit attendre. Les flèches que vous avez, verticales, horizontales, etc., ça décrit en fait les mouvements d'une aiguille d'horloge. Et en gros, il y a 15 secondes d'une flèche à l'autre. Donc le musicien a 15 secondes pour réaliser les deux premiers morceaux portés avant de passer à la suite. Et tout l'orchestre a des partitions comme ça. Et il y a Bernstein qui s'est livré à l'expérience. Célèbre Leonard Bernstein. Je vous fais écouter un petit extrait de ce que ça donne avec tout l'orchestre. Je pense que vous avez compris, ça dure comme ça pendant un quart d'heure. C'est expérimental. On va dire que c'est une forme de concept de musique des sphères. Il y a des notes de différentes tailles qui représentent en fait la magnitude de l'étoile. En plus, la magnitude est forte, plus du coup la nuance de la note va être forte. Et sinon, plus proche de nous, il y a Urmas Sisask, un compositeur estonien, qui lui est vraiment reparti de cette idée de mathématiques, de musique des sphères, de calcul, etc. Et c'est très intéressant ce qu'il a fait. Si on prend l'exemple de Vénus, il a remarqué que Vénus tournait autour du Soleil en 224,701 jours, ce qui correspond à 19 millions de secondes. 19 millions de secondes, ça fait 51 milliardièmes de Hertz. Donc c'est-à-dire que si on entendait le son produit par Vénus, qui tourne comme ça, on entendrait un son très 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 grave à 51 milliardièmes de Hertz. Ramené à une octave audible, donc en rajoutant 31 octaves, on arrive à 110 Hertz, ce qui correspond à peu près à un La grave. Il a fait ça pour chaque planète. Donc, par rapport à leur période de révolution autour du Soleil, il en a déduit, sur ses calculs, l'ont mené à un certain nombre de notes. Il y a des recoupements, du coup, il y a des notes identiques d'une planète à l'autre. Au total, il y a 5 notes, toutes les planètes. Alors là, pour beaucoup, il n'y a plus la Lune et le Soleil, hein. Ce sont toutes les planètes connues, jusqu'à Pluton d'ailleurs, qui n'est plus aujourd'hui classé comme planète. Donc, toutes ces périodes de révolution de planète lui ont donné 5 notes, et avec ces 5 notes, il a fait un cycle de 24 pièces pour chœur a cappella, qui s'appelle Gloria Patri, gloire au Père. Donc, ici, on est vraiment dans quelque chose de spirituel qui fait le lien entre l'univers et la création de Dieu. Et dans l'une de ces 24 pièces, c'est un autre Père, un Paternoster. Il commence sa pièce en citant toutes les planètes dans l'ordre, donc Mercure, Vénus, Mars, sur chaque syllabe, Pater, Noster, etc. Et là, ça c'est vraiment pour symboliser que tout cela est l'œuvre de Dieu. Donc au niveau du style, ça fait un peu Arvo Pärt, musique assez planante. Donc là, vous voyez que c'est une musique essentiellement monodique, ce Paternoster. Musique essentiellement monodique. Dans ce Paternoster, il revient un peu à cette idée de création de l'univers avec ses planètes comme ça qui s'égrènent et puis ce chant monodique. Et en fait, chacune des 24 pièces utilise des styles différents. Après, il emploie le canon dans d'autres pièces, il emploie différents styles, la fugue pour d'autres. Et il y a des pièces qui sont vraiment magnifiques pour chœur a cappella, si vous pouvez écouter ce cycle, je vous conseille. Et puis, je finirai en vous faisant écouter cette expérience qui a eu lieu dans les années 70. Alors, en 1961, une radio-astronome amateur capte dans son petit radiotélescope un signal venu du fin fond de l'espace, un signal bizarre, périodique, régulier, jamais entendu. Et là, c'est l'effervescence. Waouh, les extraterrestres arrivent. La vie existe ailleurs. Et puis, l'analyse montrera qu'il s'agissait en fait de la découverte du premier pulsar. Le pulsar, c'est une étoile qui s'est effondrée sur elle-même, qui du coup ne fait que quelques kilomètres de diamètre, mais qui tourne très très vite, parfois plusieurs dizaines de fois par seconde. Donc vous imaginez quand même, quelques kilomètres, plusieurs dizaines de fois par seconde, l'énergie que ça génère, et ça fait comme un phare dans l'espace qui balaye l'espace d'un rayonnement électromagnétique. Et quand c'est capté ici par un radiotélescope, ça fait quelque chose qui ressemble un peu à un métronome. Tac, 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 tac. Et dans les années 70, il y a un compositeur français, Gérard Griset, qui lui s'intéressait à la musique spectrale, c'est-à-dire vraiment les sons pour eux-mêmes avec la décomposition en fréquences du son. Il agençait les sons par rapport aux fréquences et aux harmoniques des sons, du timbre, des instruments, etc. Et il a créé une musique pour pulsar et percussion. Et le jour de la création, dans les années 70, il y avait deux pulsars qui étaient là. Un qui était diffusé sur bande, qui avait été préenregistré, et un autre dont le son arrivait directement depuis un radiotélescope, diffusé sur un haut-parleur sur scène. Et il y a des percussionnistes qui se greffent à cette musique-là. Donc cette espèce d'hélicoptère que vous entendez, c'est le son du pulsar. Déjà assez vite celui-ci, hein. Une douzaine de fois par seconde. Donc ça c'est un son qui est venu de l'espace. Et puis petit à petit vous entendez que ce son chante s'enrichit. Il y a des percussionnistes qui se greffent par-dessus.
Ça dure un certain temps, ça se développe lentement, un peu comme de la matière qui se transforme progressivement. Et donc, là, vous avez des musiciens qui sont en train de jouer en direct, synchronisé, avec un son qui vient de l'espace. Et finalement, avec l'évolution technologique, on s'aperçoit qu'en fait, les Grecs, ils avaient quand même de bonnes intuitions. Finalement, il y a plein de sons dans l'espace, parce que forcément, toute cette matière qui brûle dans le soleil, ça produit des sons. Alors, on ne les entend pas, forcément, parce qu'il y a le vide, etc. Mais on a certains moyens de transformer des observations, de sonoriser, enfin, de transformer ces observations, des signaux électromagnétiques ou autres, en sons. Et nul doute qu'à l'avenir, il y a peut-être des compositeurs qui vont encore faire ce genre d'expérience. Je finirai là-dessus en vous citant une phrase que ce même compositeur, Gérard Griset, a dite. « Que l'on n'en déduise pas cependant que je suis un adepte de la musique des sphères. Il n'est d'autre musique des sphères que la musique intérieure. Celle-là seule pulse encore plus violemment que nos pulsars et oblige de temps à autre un compositeur à rester à l'écoute de lui-même. »
Vous avez écouté une conférence avec Stéphane Nicolet dans le cadre des rencontres musicales en Haute-Provence, enregistrée dans la salle Pierre-Michel à Fauquaquier. Montage et enregistrement Ute Müller. C'était une émission de Radio Zanzine. Thank you.
vous avez écouté en début la musique de Jean-Sébastien Bach, sonata 1 BWV 1001 de Fuga Allegro, et c'était interprété par la violoniste Isabelle Faust. Également, à la sortie, on a écouté ce morceau tout entier.